La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ils ont en commun de manier avec jubilation le politiquement incorrect et d'avoir été identifiés puissamment à un moment au moins de leur carrière avec la ville de New York dont ils ont tous les deux décrit les pulsions souterraines, les désirs de puissance, d'argent et de sexe, mais également de meurtre et de violence. Je veux parler ici de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, ainsi que de Tom Wolfe, l'écrivain du Bûcher des Vanités, et de moi, Charlotte Simmons. Ces deux romanciers sont au cœur de l'actualité éditoriale puisque le dernier livre de Bret Easton Ellis, White, paraît jeudi prochain 2 mai et qu'un volume de la collection Bouquins regroupant deux romans de Tom Wolfe, assorti d'une longue introduction, vient également de paraître. Ces deux livres sont édités en France par la maison Robert Laffont. Nous parlerons donc de Bret Easton Ellis en fin de semaine en revenant mercredi sur sa biographie avec son traducteur Pierre Guglielmina et en analysant son œuvre jeudi grâce à l'écrivain et journaliste Alexis Broca. Puis enfin demain, nous parlerons plus spécifiquement du genre que l'on appelle le nouveau journalisme et dont Tom Wolfe était l'un des tenants. Et aujourd'hui, pour parler de la vie et de l'œuvre de Tom Wolfe, nous sommes avec vous, Nicolas Hidier. Bonjour.
Bonjour,
Mathieu. Vous êtes diplomate et écrivain. Vous avez été attaché culturel auprès de l'ambassade de France à Pékin, puis responsable du bureau du livre à l'Institut français de New Delhi. Vous êtes aussi l'auteur de deux romans, Nouvelle Jeunesse et La musique des pierres. Vous avez publié chez Gallimard et vous avez également rédigé la préface du volume La mer dans la littérature française, paru en 2018 dans la collection Bouquins des éditions Laffont, collection où, je le disais donc, vous venez de préfacer le volume qui rassemble les deux premiers romans de Tom Wolfe, Le Bûcher des Vanités et Un homme, un vrai. Alors ce sont deux romans violents, des romans sanglants, irrigués, dites-vous, par le meurtre réel et symbolique et sur lequel souffle un élan mystique et païen. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer du côté démoniaque de la littérature de Tom Wolfe, Nicolas Hidier ?
Je ne sais pas si Tom Wolfe peut être qualifié de démoniaque, si ce n'est peut-être dans le côté ultra drôle que peut avoir le diable. Car Tom Wolfe, c'est pour moi avant tout un grand écrivain de l'humour. On rit énormément à la lecture de ses romans. Et plus les scènes sont terribles, plus il s'enfonce dans les détails les plus scabreux, qui peuvent être sexuels ou scatologiques, ou la description des portraits de personnalités absolument monstrueuses. Il le fait d'une manière extrêmement drôle. Et alors le côté démoniaque pour moi de Tom Wolfe, c'est avant tout un grand éclat de rire permanent.
Mais comme on ne rigole pas tout le temps, y a des moments où on frôle plutôt l'apocalypse, notamment dans les descriptions, par exemple, de la vie de ces grands financiers.
Alors c'est une apocalypse, certes, mais toujours une apocalypse amusée. Je crois que Tom Wolfe était un écrivain qui était lui-même extrêmement doux, très poli, d'une gentillesse considérée comme immense, mais qui, dans ses livres, parce qu'il est venu du journalisme, a tenté de circonscrire le réel. Mais pour circonscrire le réel, eh bien, il a choisi très clairement la parodie. La parodie, c'est pas pour parodier les choses les plus sympathiques de la nature humaine, pas les choses les plus sympathiques de l'empire américain qu'il a tenté de décrire. Et c'est précisément pour aller dans les endroits les plus sombres, là où il fallait porter des lumières. Mais son moralisme, il ne le fait pas d'une manière pénible, tristounette, sombre. Non, il le fait toujours avec le rire, y compris face à l'horreur. Et en effet, quand vous parlez des portraits terribles des financiers américains, ceux qui ont mis à genoux une partie du monde américain, il le fait, certes, mais il le fait d'une manière tellement outrageuse qu'il n'en ressort un grand rire.
Exemple.
Charlie Croker est un pauvre garçon de la campagne qui débarque à Atlanta et qui se débrouille bien. C'est l'histoire classique. Il arrive sans rien. Son père, un pauvre type de la Géorgie rurale, il fait fortune dans les travaux publics et ensuite il achète une chaîne de restauration et veut devenir un vrai nabab. Il possède 17 entrepôts à travers l'Amérique. Au début du livre, il a tellement étendu son empire qu'il est au bord de la faillite, sur le point de couler. Selon moi, Charlie Crocker est le modèle parfait du promoteur avec tous ses défauts, péchés et aussi toute la force qui rend haute en couleur la personnalité de ce type de personnage.
Au sujet de Charlie Crocker, personnage de Un homme un vrai, l'un des deux romans dans le volume que vous avez édité, Nicolas Hidier, il y a une fascination de Tom Wolfe pour ce genre de personnages, les self-made men, les businessmen.
Ah oui, complètement. Tom Wolfe était très impressionné, je crois, par les exemples individuels. C'est peut-être ça l'Amérique, c'est les destins individuels, les personnes qui réussissent eh bien, à se construire, le mythe du self-made man qui est si important dans la littérature américaine. Et il croise ce mythe du self-made man, de la personne qui s'est construite, avec les vices les plus terribles du capitalisme, de l'ultralibéralisme américain. Charlie Crocker, c'est vraiment l'exemple de ça. C'est en effet une star de la finance, un agent immobilier méga successful d'Atlanta, qui a plus grands yeux que grand ventre, mm-hmm. et qui finit par tomber extrêmement bas. C'est aussi les exemples de ces financiers, ces maîtres du monde, comme il les appelle lui-même, les maîtres de l'univers, qui sont au cœur de Wall Street et dont il fait le portrait dans son premier roman, Le bûcher des vanités.
Mmh. Alors, qui était-il, Tom Wolfe ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'était un anarchiste ?
Je pense que Tom Wolfe était moins un anarchiste que quelqu'un de droite, plutôt convenu, qui aimait se moquer de tout avec une ironie parfois tapageuse.
Aujourd'hui, on le dirait libertarien ou c'est encore différent ?
Oui, on pourrait dire libertarien tout en étant très respectueux. C'était quelqu'un qui venait du sud des États-Unis, de Virginie. Il incarnait aussi cet idéal très sudiste, en fait, aux États-Unis. Il n'était pas croyant, donc on ne peut pas le mettre dans ce paquet des grands chrétiens américains, mais il était quand même, disons, traditionnaliste. Il avait quelques difficultés avec la modernité, et je pense que c'est ça aussi qui explique la vigueur de son regard porté sur la modernité américaine. Libertarien peut-être, anarchiste un peu, mais furieusement individuel en tout cas.
Donc de droite, on peut le dire sans peur de se tromper, et pourtant un homme qui aimait la gauche et qui aimait l'adversité. Il s'est d'ailleurs beaucoup intéressé aux questions de politique sociale. Donc il y a une espèce d'ambivalence entre ce personnage... multiples facettes.
Bon, disons, je pense qu'il était de droite aussi parce qu'il voulait pas être comme les autres. Tom Wolfe, c'est quelqu'un qui s'est toujours perçu comme différent. Il a travaillé sa singularité, sa différence. À une époque, dans les années 60, où tous les écrivains, tous les intellectuels américains étaient plutôt démocrates, eh bien, Tom Wolfe a tenté autre chose. Ça en fait pas de lui un égoïste replié sur lui-même, qui ne voudrait travailler que pour les riches. Bien au contraire. Mais c'est justement quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la question sociale, qui a essayé de décrire les soubassements sociaux des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, qui a porté son regard de manière très précise sur les inégalités américaines et occidentales, et qui les a décrites, leur a donné une place considérable dans ses romans. Et on pourrait dire que ces romans, ces quatre grands romans, que sont donc Le bûcher des vanités, Un homme, un vrai, Charlotte Simmons et Bloody Miami, ces quatre romans sont aussi des trajectoires de renversement, de révolution sociale, puisque vous partez avec des personnages qui sont au sommet de l'échelle sociale, et qui petit à petit en descendent, et en descendent parfois de manière extrêmement violente, comme c'est le cas du bûcher des vanités et de Un homme un vrai, puisque c'est une chute absolue, totale et définitive à laquelle on assiste dans ces deux grands romans.
On va écouter justement un extrait du bûcher des vanités.
Incroyable comment les fils de ces grandes universités, Ces héritiers de Jefferson, Emerson, Thoreau, William James, Frederick Jackson Turner, William Lyons Phelps, Samuel Flagg Bemis et autres géants à trois noms de la pensée américaine, comment ces légataires de Lux et Veritas se regroupaient maintenant comme un troupeau dans Wall Street et la salle des obligations de Pierce & Pierce. Comment les histoires circulaient sur chaque campus. Si vous ne faisiez pas 250 000 dollars par an, au bout de 5 ans, c'est que vous étiez soit carrément stupide, soit carrément paresseux. Voilà ce qui se disait. En atteignant la trentaine, 500 000 dollars, et cette somme avait un vague parfum de médiocrité. À 40 ans, soit vous vous faisiez 1 million par an, soit vous étiez timide et incompétent. Fonce maintenant. Ce refrain martelait chaque cœur comme une maladie du myocarde. Les Golden Boys de Wall Street, de simples jeunes gens sans double menton et avec des artères propres, des garçons encore capables de rougir, achetaient des appartements à 3 millions de dollars sur Park et la 5e Avenue. Pourquoi attendre? Ils achetaient des résidences d'été de 25 pièces et de 2 hectares à Southampton. Les maisons construites dans les années 20 et considérées depuis les années 50 comme des éléphants blancs. Des maisons avec des ailes pour le personnel qui tombait en ruine. Et ils faisaient refaire ces ailes. Et même rajouter encore quelques pièces. Et pourquoi pas? Nous avons du personnel.
Extrait du Bûcher des Vanités, lu par Pierre-Marie Baudouin. Alors ce livre, Nicolas Hédier, Le Bûcher des Vanités, il a été publié en 1987, qui fut quand même une année de crash boursier. Est-ce que c'est un prophète aussi de notre civilisation, Tom Wolfe, selon vous ?
Quand on le lit, c'est l'impression que ça donne. En effet, il a une manière de parler de phénomènes qui sont devenus nos réalités aujourd'hui. Crash boursier, effondrement des bulles spéculatives dans le domaine de l'immobilier, montée du nationalisme et du suprématisme blanc, du racisme terrible aux États-Unis qu'on retrouve dans son dernier roman. Mais tout ça s'explique aussi pour une simple et bonne raison, c'est que Tom Wolfe s'est toujours intéressé aux jeunes. Il a, de toute sa vie, porté un regard attentif à la jeunesse américaine.
À tel point qu'à plus de 70 ans, il écrit un livre dans lequel il se met dans la peau d'une adolescente avec Moi, Charlotte Simmons.
C'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Un vieux monsieur comme Tom Wolfe, qui en effet se met dans la peau de Charlotte, une jeune étudiante, et qui explore non seulement son itinéraire de petite provinciale, entrant dans une grande université fictive, mais c'est pas compliqué de reconnaître Yale ou Harvard, ou une de ces grandes universités américaines, et qui explore aussi les émois amoureux, sexuels, sensuels, et qui, encore une fois, chute d'une certaine manière, perd de sa moralité. C'est un peu là. Tom Wolfe, il prend des personnages qui auraient pu être heureux, qui auraient pu vraiment réussir parfaitement. Donc l'image du succès sur papier glacé tel que l'Amérique nous le propose, il les prend et il les met dans ses mains, il en fait une petite balle et il la jette comme un joueur de baseball et la balle va se cracher loin devant lui ou loin derrière lui. Mais ça c'est une chose qui s'explique parce qu'encore une fois, il prend ses personnages à un moment de leur vie qui généralement est un moment de jeunesse. Pour Charlie Crocker par exemple dans Un homme, un vrai, c'est une jeunesse qui va se terminer puisque c'est déjà un homme mûr qui petit à petit va tomber malade, va avoir des problèmes de physique, etc. Mais qui se voit encore comme quelqu'un de jeune. Et du reste, dans Un homme, un vrai, il y a des retours, flashbacks dans la vie, dans la jeunesse de Charlie Crocker. Et on ne comprend vraiment les personnages de Tom Wolfe qu'à condition de comprendre qu'ils ont été jeunes.
Ah ben alors précisément, il faut peut-être parler de la jeunesse de Tom Wolfe, Nicolas Hédier, qui est une jeunesse très heureuse. Vous parlez de sa maison oui. qui a été mise en vente dans les années 2018.
Très récemment, oui.
Et alors lui-même, plusieurs années plus tôt, avait, lors d'une précédente mise en vente de cette maison, rédigé son histoire par rapport à cette maison-là.
Oui, c'est clair que Tom Wolfe a eu une jeunesse heureuse, assez simple du reste. Son père était agronome, il écrivait pour des magazines dédiés aux sciences naturelles.
Donc il était un peu journaliste, c'est important quand même.
D'une certaine manière journaliste. En tout cas, c'est vrai qu'il avait parfois, Tom Wolfe le raconte à certains endroits, il revenait à la maison, les doigts tachés d'encre. qui est une histoire quand même reliée à l'édition. Mais plus que ça, Tom Wolfe a eu un petit peu la jeunesse rêvée d'un enfant du sud des États-Unis avec toute cette mythologie du grand air, du baseball, des copains, des fêtes foraines, la jeunesse vraiment américaine avec, on peut imaginer ça dans les, on voit ça très bien dans les films, l'image rêvée, pleine lumière, grand soleil, et
une forme de bonheur. L'enfance sans contrainte aussi.
Une enfance sans contrainte, où il n'y avait pas tant de problèmes sociaux que ça. Alors, il a beau être né en 1930, c'est-à-dire l'année d'après la grande crise américaine, il n'a pas vécu de contraintes terribles. Il y avait certes des clochards et des déshérités dans sa Virginie natale, mais il n'y avait pas autant de tensions qu'il a pu en observer à la fin de sa vie.
Vous dites qu'on donnait à cette époque-là des sandwichs aux clochards. C'était tout à fait une autre ambiance. Donc un enfant du Sud, un enfant de cet État conservateur, il faut quand même rappeler que les mariages interraciaux ont été interdits jusqu'en 1967, et que même en 2006, un référendum rassemblant 57% des suffrages approuvait encore un amendement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel. Mais le Sud, c'est pas que ça pour Tom Wolfe, c'est aussi des écrivains, c'est aussi Faulkner, Truman Capote, Gore Vidal. Il fait partie de cette filiation.
Ah oui, tout à fait. Il est dans cette filiation et je pense que c'est ça qui le conduit naturellement bien vers la littérature, vers la volonté d'écrire en tout cas. Alors il passe par le journalisme, il est un grand journaliste, un très grand reporter dont il renouvelle tous les codes, mais très rapidement, en effet, c'est probablement parce qu'il vient aussi de cette région américaine qui n'est pas New York, mais qui est quand même très littéraire, qu'il souhaite à un moment devenir lui-même un écrivain.
Alors, c'est aussi quelqu'un qui a l'amour des grands hommes, l'amour de la grandeur. Vous expliquez que très jeune, il a lu une biographie de Napoléon par Émile Ludwig et qu'il a été extrêmement impressionné par le parcours de Napoléon.
Oui, oui, oui. Il faut voir aussi que Tom Wolfe était quelqu'un... Alors, il a été sportif dans sa jeunesse. Comme je vous le disais, il a joué au baseball. Il a même fait un essai avec les New York Giants. Donc, il était bon. Hein, c'était un sportif. Mais d'une constitution physique, tout de même, assez faible. Il n'était pas très grand. Il était plutôt très mince, et donc il s'est identifié quand il était enfant très très rapidement en lisant la biographie de Napoléon. En effet, il s'est identifié à Napoléon.
Cette biographie, il a voulu lui-même écrire une biographie à cet âge-là.
Exactement,
de Napoléon.
Il a tenté vraiment dans tout jeune enfant d'écrire la biographie de Napoléon. Mais au-delà du personnage de Napoléon, ce qui l'a beaucoup marqué dans cette biographie, eh bien c'est l'affirmation individuelle de quelqu'un qui va contre le destin, qui va contre toute une société et qui s'en part pour s'inventer lui-même.
Alors il s'invente lui-même, il ne suit pas les codes. Par exemple, il est reçu en 1947 aux examens à Princeton, prestigieuse université américaine, mais il décide de ne pas y aller.
Il n'y va pas.
Il va dans une université moins prestigieuse. Pourquoi ?
Oui, alors quand même tout à fait prestigieuse, Washington et Lee. Il en sera diplômé pour une simple raison, c'est qu'il avait déjà quand même cette espèce de réserve naturelle très forte vis-à-vis de l'establishment. Et Princeton incarnait l'establishment. Alors ayant dit cela, il faut garder en tête qu'il va rejoindre ensuite l'université de Yale quelques années plus tard, donc il n'était pas non plus complètement prémuni contre l'establishment.
Et alors, malgré tout, il écrit un mémoire sur le philistinisme et la défiance vis-à-vis des élites culturelles.
C'est vrai que
c'est étonnant aussi.
C'est tout à fait étonnant, mais ça reste un sudiste, quelqu'un qui toujours a eu, jusqu'à dans tous ses romans, dans un grand nombre de ses essais, cette image quand même que deux mondes s'opposaient aux États-Unis. Pour caricaturer les choses et les dire très vite, d'un côté le monde de la terre, des plantations...
Dont il considère qu'il fait vraiment partie.
Dont il fait partie et dont il prend sur lui un certain nombre des codes, y compris son habillement. Lorsqu'il décide de marcher dans New York en plein hiver avec ce costume blanc, qui est vraiment le costume des planteurs du Sud, et le costume de la Virginie, il incarne ça. Mais il en fait partie à New York. Je pense qu'en Virginie, il se voyait plutôt comme New-Yorkais. En fait, Tom Wolfe, il voulait pas faire partie de la meute. Il a toujours voulu et souhaité se tenir à distance du groupe. Quand il voyait un groupe, il voulait s'en différencier. Et ça, c'est quelque chose qui explique aussi une grande partie, non seulement de sa carrière littéraire, mais aussi de sa pensée politique et sociale.
Alors, il y a une tentation qui est la tentation de l'université, de devenir universitaire, puisqu'à Yale, il va faire un PhD, enfin un doctorat. Et alors, ce doctorat, finalement, qui porte sur les activités communistes dans les milieux littéraires américains. D'ailleurs, c'est un choix totalement improbable, Nicolas Hédier.
On voit quand même qu'il y a une défiance, encore une fois, vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis de l'idéalisme aussi.
Qu'est-ce qu'il reproche à l'idéalisme?
Je pense que Tom Wolfe se méfiait des idéalistes, car il y voyait une forme d'hypocrisie possible. Et toute sa carrière également est traversée de cette espèce de défiance vis-à-vis, pas forcément de l'idéalisme, mais de l'hypocrisie sociale. C'est-à-dire facile d'être idéaliste, facile d'être de gauche et généreux. Lorsqu'on ne fait pas vraiment acte et lorsqu'on ne s'engage pas concrètement, il avait lui-même un regard très 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 dur, très acide sur l'intelligentsia américaine qui parlait beaucoup mais qui faisait peu pour les couches les plus faibles de la société.
Alors cette thèse, elle est rédigée dans un style qualifié de trop débridé.
Oui.
Il faut qu'il réécrive cette thèse. C'est peut-être ça aussi qui va le dégoûter un petit peu de l'université, qui va le déporté vers le journalisme?
Oui, fort probablement. En fait, dès ses jeunes années, Tom Wolfe était impressionné par la possibilité stylistique d'écrire sans forcément respecter toutes les normes de la grammaire telles qu'on les apprend à l'école. Donc il utilisait la ponctuation, énormément de points d'exclamation, mais aussi les tirés. Il adorait le style direct, il adorait que les personnages s'engagent à la première personne. Donc autant de choses qui sont pas forcément très acceptées à l'université. Donc il a eu son PhD, mais à condition, s'y est plié, de le réécrire dans un style plus sobre. Mais en effet, il a compris que son style totalement exubérant, hors cadre, hors norme, ne serait jamais vraiment accepté à l'université. Il s'est donc plutôt orienté vers le journalisme.
Donc là, on est en 1956, c'est l'année de sa soutenance. Il se fait embaucher par le Springfield Union dans le Massachusetts. On verra demain avec Eric Neveu que le journalisme, c'est évidemment essentiel dans son écriture, avec l'idée du nouveau journalisme, mais on peut peut-être tout de même dire un mot sur ce rapport au journalisme qu'il entretiendra toute sa vie. Il est d'abord journaliste pendant très longtemps, et seulement journaliste avant de devenir plus tard romancier, Nicolas Hédier.
Oui, cela étant, Tom Wolfe maintenant, c'est une œuvre qu'on peut envisager dans sa globalité, et je considère qu'il ne faut pas faire de séparation abrupte, définitive, entre son travail de journaliste et son travail de romancier. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que son travail de romancier, il l'informe, il lui donne de la chair, il le documente grâce à ses méthodes de journaliste. Mais aussi parce que, dès la première partie de sa carrière, lorsqu'il est jeune journaliste, lorsqu'ensuite il rejoint le Washington Post et ensuite le New York Herald Tribune.
Et Esquire aussi, qui était à l'époque un des lieux du journalisme bien écrit, disons.
Exactement. Il décide de faire du journalisme avec une forme de fiction, c'est-à-dire du journalisme très écrit. En fait, il aime les faits, il aime être reporter, accumuler de la documentation, enregistrer des dialogues, il se trimballe partout avec un carnet de notes, et quand il ne peut pas prendre de notes sur le coup, avant de se coucher, il met tout ça sur le papier. Donc il est vraiment très attiré par les faits, mais même lorsqu'il écrit sur Fidel Castro, par exemple, quand il est à Cuba au tout début des années 60, il ne peut s'empêcher, pour faire vivre son reportage, de mettre des détails, de descriptions et faire vivre des personnages. Et je crois que c'est ce qui résout en fait l'équation journaliste ou romancier, c'est la volonté de mettre en avant avant tout des personnages, de ne pas être emprisonné dans des théories, de ne pas se laisser enfermer dans des dogmes, mais de laisser les personnages évoluer d'eux-mêmes.
En fait, quand on le lit, on a l'impression qu'il dit à ces personnages « Racontez-moi ce que vous faites, mais ne me dites surtout pas ce que vous pensez. »
Non, en effet, et en fait, je crois que c'est ça aussi quand même l'art du roman. Le roman est une science sociale qui se comprend non pas par la théorie, mais par les personnages qui évoluent. Et la théorie, à la fin, laissons-la aux critiques, aux professeurs, aux lecteurs, pourquoi pas. Mais en effet, ce qui est génial chez Tom Wolfe, dès sa carrière, sa jeune carrière de journaliste, c'est qu'il laisse parler les personnages. Mais en revanche, très franchement, le choix de ces personnages, le choix de ces sujets, léger est toujours un choix de romancier. C'est-à-dire, même s'il a mis du temps à devenir romancier, même s'il faut attendre plusieurs décennies avant qu'il écrive Le bûcher des vanités, eh bien, dès le départ, le choix de ses sujets n'était pas vraiment guidé par l'actualité, était assez peu guidé finalement par le rythme d'un quotidien, d'un grand journal, mais était surtout guidé par sa volonté de trouver des sujets absolument incroyables, romanesques, fictionnels, symboliques.
Alors, il adorait la littérature française, mais la littérature française du 19e siècle surtout, ou du début du 20e siècle. Par contre, il n'aimait pas le nouveau roman, il détestait Tel quel, qu'on connaissait un petit peu à New York dans ces années-là. Il détestait la French Theory. Qu'est-ce qu'il gênait tant, par exemple, dans la question de l'introspection, dans la recherche formelle un petit peu trop poussée en littérature?
Justement, je pense que Tom Wolfe a voulu faire avant tout faire parler ses personnages et les faire évoluer jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Donc, par exemple, il avait des techniques. Ses dialogues sont rarement coupés. Donc, quand il était journaliste, il laissait le dialogue s'essouffler jusqu'à la fin, quitte à ce que ça devienne peu intéressant. Et dans ses romans, même chose. Il laisse donc les personnages interagir. En fait, ce qui l'intéresse, c'est moins un personnage tout seul face à ses difficultés existentielles, sa dépression, une psychologie, ses rêves, qu'un personnage confronté à d'autres personnages. En fait, si vous prenez aussi bien les reportages que les romans de Tom Wolfe, il y a toujours des confrontations entre des personnages. Et l'extraordinaire exubérance, le génie de ces romans, vient aussi qu'ils confrontent des personnages qui n'étaient pas destinés à se rencontrer et qui brusquement, eh bien, il y a une sorte de collision, comme un accident sur une autoroute où deux véhicules qui auraient dû se croiser sans jamais se rencontrer, eh bien, se rentrent dedans. Et de cette collision sort quelque chose. C'est l'inverse même du nouveau roman, qui est tout fait de fluidité, d'introspection, qui est en fait un élément liquide. Tom Wolfe, c'est du volcan, c'est pas de l'eau.
Il y a de l'énergie ici. On parle tout le temps de l'énergie de New York. Ce qu'il y a réellement, c'est l'ambition. Il n'y a pas d'autre raison d'être à New York que pour satisfaire une ambition. Vous savez, c'est une ville laide, elle pue, les rues sont dangereuses. Oh non, il n'y a pas d'autre raison d'être ici que l'ambition à satisfaire. C'est difficile de ne pas travailler. Ici, difficile d'être paresseux.
Vous vivez donc à New York pour satisfaire aussi vos propres ambitions?
Oui, je l'ai finalement admis. Pour toutes sortes de raisons, les impôts, les enfants, j'aurais pu rêver d'un joli petit coin à la campagne. Mais j'ai découvert que je voulais rester ici en raison même de cette atmosphère de travail et d'ambition.
Et c'était un extrait d'un entretien de Tom Wolfe issu d'un reportage de la télévision suisse, Nicolas Hidier. New York, c'est vraiment la ville de Tom Wolfe. On a dit qu'il était imprégné de son sud natal, mais c'est à New York qu'il se déploie vraiment.
Ah oui, tout à fait. Il y arrive au tout début des années 60, en 1962 pour être précis, et c'est à New York qu'il meurt, à Manhattan. Et il incarne, je crois, beaucoup plus et beaucoup mieux que n'importe quel autre écrivain, ce rapport à la fois complexe au chic, à la modernité, à l'élégance, mais aussi une forme de vulgarité, une forme de grossièreté, qui est quand même la grossièreté présente à New York. Ce qui intéresse aussi Tom Wolfe à New York, c'est bien sûr le fait, comme il le dit lui-même, c'est la capitale de l'ambition, c'est la capitale des illusions qu'on va pas perdre comme dans Balzac, mais qu'on va gagner jusqu'au bout. C'est la capitale de Wall Street, c'est la capitale de la finance mondiale. Il était très très lucide sur le fait que la finance gouvernait le monde et que la finance était une question d'instinct. Donc c'est ça. Ce qui l'intéresse aussi dans New York, c'est que c'est une ville de melting pot. Le coup de départ du bûcher des vanités, c'est tout de même la descente malencontreuse de Sherman McCoy et de sa maîtresse dans les bas-fonds du Bronx.
Trader de Wall Street.
Exactement, un maître de l'univers, extrêmement riche, grand appartement dans à Manhattan, et qui se retrouve dans le Bronx et qui renverse un jeune noir. Et il y a dans le Bûcher des Vanités à la fois le Bronx et la communauté afro-américaine, des ambitions aussi. Tom Wolfe n'était pas du tout idéaliste, il voyait les ambitions partout où elles étaient. Il le disait lui-même à propos de Zola. Il disait Zola aurait pu, en fait, comme il était de gauche, comme il avait beaucoup d'idéaux, il aurait pu faire un peu comme Victor Hugo et faire Les Misérables avec que des bons caractères, des bons personnages. Le pauvre aurait été pur et le riche aurait été un salaud. Eh bien non, en fait, il le dit aussi pour lui-même, on trouve à New York de la vilainie partout, que ce soit en haut ou en bas.
Et il dit, je suis fier qu'aucune motivation politique ne soit décelable dans aucun de mes livres importants. C'est un Zola à l'envers pour le coup, un homme de droite mais qui ne va pas faire sentir, enfin pense-t-il, après c'est sans doute discutable, dans sa littérature ses opinions politiques.
Non mais c'est vrai que c'est très difficile de voir des opinions politiques dans ses romans. En fait je crois que Tom Wolfe s'intéressait certes à la politique pour ce qu'elle disait de la société, ce qu'elle disait du monde. C'était encore une fois, c'était pas un homme d'idées, les idées ne l'intéressaient pas. Ce qu'il voulait c'était la réalité qui se déploie petit à petit et qui donne du sens aux choses. Ce qu'il aimait, c'était comprendre le monde autour de lui. Mettre des idées sur tout ça, ça l'intéressait pas. En revanche, dans ses romans, eh bien, il y a cette volonté de dire un monde tel qu'il est, dans toutes ses complexités. Et en cela, New York, c'était probablement le meilleur creuset pour avoir cette complexité émotionnelle, sociale, culturelle.
En fait, il y a un plaisir de la foule chez Tom Wolfe que vous expliquez très bien, Nicolas Hidier, quand vous parlez du 11 septembre 2001 et de la manière dont il a vécu le 11 septembre.
C'est vrai, je me suis souvent interrogé sur comment quelqu'un comme Tom Wolfe, avec toute cette élégance, encore une fois un peu sudiste, cette très grande politesse, cette courtoisie poussée à l'extrême, avait pu vivre l'agression terrible de sa ville. Et ce qui rassure Tom Wolfe au moment des attentats du 11 septembre et de l'effondrement des deux Twin Towers, eh bien, c'est en effet la foule de New York, c'est la population de New York bigarrée comme un carnaval. En fait, Tom Wolfe, je crois, aimait la foule et il aimait surtout le carnaval. Ses romans sont des carnavals.
Il faudrait une statue à l'effigie de Tom Wolfe, c'est ce que vous suggérez en tous les cas.
Oui, je lance.
Installé à New York, vous savez même à quel endroit.
Je lance un appel solennel à l'érection d'une statue à l'effigie de Tom Wolfe, pile devant son restaurant préféré, un restaurant italien où il aimait particulièrement un plat de calamar.
Bon, on espère que Bill de Blasio nous écoute, c'est pas sûr. Nicolas Hidier, vous restez avec nous, on va poursuivre notre conversation sur l'écrivain américain Tom Wolfe, mais tout de suite, je vous propose d'écouter, toujours pour évoquer Tom Wolfe, le journaliste et écrivain Philippe Labro.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Philippe Labro, que Garance Mazelier de l'équipe de la compagnie est allé interroger dans ses bureaux du 16e arrondissement de Paris. On l'écoute.
Bonjour Philippe Labro.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez très bien connu Tom Wolfe.
Bah oui, c'était un ami, ça le reste, même s'il est parti, c'est un ami intime. J'ai connu il y a de longues années. Ce qui nous a réunis, c'est que nous sommes les anciens d'un très bon collège en Amérique qui s'appelle Washington and Lee, où j'étais étudiant. Lui, il l'était un peu avant moi, 4 ans avant moi. Néanmoins, c'était un lien. Et puis, je l'ai rencontré à Paris lorsqu'il était là pour la promotion du Bûcher des Vanités. On nous a présenté l'un à l'autre et il s'est fabriqué ce qu'on appelle les affinités électives.
Et vous vous êtes écrit beaucoup de lettres également. Est-ce que dans ces lettres, vous voyez aussi le travail de l'écrivain et du journaliste ?
La correspondance consistait surtout, au fond, à s'enrichir l'un l'autre. Et vous savez que Tom, entre autres talents, était un grand dessinateur. Et donc, il avait une façon d'écrire qui était presque comme s'il dessinait sa lettre avec des signatures très longues, avec des florilèges comme ça.
Est-ce que dans cette correspondance, il vous a parlé de ses projets, par exemple ses projets de romans, d'écriture ?
Ah ben oui, il était en plein travail, parce qu'il faut savoir que Tom, pour chacun de ses grands romans, il en a écrit quand même 4 ou 5, hein, très très grands livres, il passait à peu près 3 ou 4 ans de sa vie à enquêter, à investiguer, à prendre des notes, lorsqu'il a fait son livre sur la jeune collégienne qui découvre le monde de l'université américaine, qui s'appelle, je m'appelle Charlotte Simmons, il a dû passer 2 ans de sa vie sur les campus. Lorsqu'il a fait son bouquin sur Miami, il en était même arrivé jusqu'à louer avec sa femme un appartement à Miami pour y vivre, pour s'imprégner de la vie de Miami et des relations qui pouvaient se faire là-bas. Donc, pendant l'époque, il y a eu 2 époques pendant lesquelles 2 de mes livres ont failli avoir un prix Goncourt. Donc, je racontais comment, finalement, je ne l'avais pas eu et pourquoi. Et j'avais trouvé l'expression, je disais que j'avais été victime de ce que j'appelais les petites chapelles. Alors, il avait adoré cette expression. Il adorait les expressions françaises. Donc, il s'en servait pour me parler des petites chapelles new-yorkaises, puisqu'il était lui-même l'objet d'une vindicte de la part d'autres grands écrivains comme Norman Mailer, John Updike, qui en voulait à Tom, au fond, de son succès commercial gigantesque.
Vous avez même parlé, s'agissant de Tom Wolfe, d'un mélange entre Balzac et Zola.
Ah oui, alors ça, c'était mon grand truc, parce qu'il m'a toujours expliqué, c'est vrai, qu'il considérait que ses vrais mentors, ses vraies influences littéraires, c'était 2 écrivains français, évidemment très célèbres, Balzac pour sa comédie humaine et Zola pour son autre comédie humaine. Il s'est aussi beaucoup plongé dans certains écrivains russes dont il me parlait, peu connus, qui s'appelaient les frères Sérapion, et qui étaient aussi des behavioristes, c'est-à-dire des gens décrivant le comportement des êtres, aussi bien leur manière de parler, de s'habiller, ce qui est très très présent chez Tom. Donc, oui, un jour, comme ça, je lui dis, bah, écoute, au fond, tu t'appelles Balzola.
Et est-ce que Tom Wolfe, lui, qui a connu cette notoriété, comment est-ce qu'il se situait par rapport à ça?
Tom n'a jamais détesté la notoriété. C'était un dandy, il adorait s'habiller d'une certaine façon, il adorait marcher dans les rues de New York dans son fameux costume blanc. Il aimait cette espèce de personnage qu'il s'était créé, mais sans narcissisme, avec une sorte d'humour sur lui-même, une sorte de recul et de regard ironique sur ce qu'il était, jamais dupe. Simplement, il est profondément persuadé de la puissance et de la force de son travail.
Et cette lucidité de regard de Tom Wolfe dont vous parlez, vous la saluez aussi dans un de vos ouvrages qui est intitulé « Mon Amérique » où vous avez écrit un chapitre consacré à Tom Wolfe.
C'est exact. La Martinière, les éditions La Martinière m'ont demandé il y a quelques années en me présentant une centaine de photos extraordinaires. Et à partir de là, on a décidé de faire « Mon Amérique », c'est-à-dire mes 50 Américains ou Américaines qui m'ont frappé et plus ou moins influencé. Et évidemment, on l'a fait carrément comme un alphabet, c'est-à-dire A comme Woody Allen et W comme Wolfe. Et donc, évidemment, j'ai inclus Tom, effectivement, et je lui ai consacré les pages qu'il mérite, parce que je pense très sincèrement qu'on a un peu trop joué sur l'image du dandy, sur la personnalité, sur sa médiatisation, et on a parfois oublié la densité, la profondeur et l'intelligence de son propos.
Merci voilà. Beaucoup Philippe Labro.
Philippe Labro, avec Garance Mazelier, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Est-ce que par exemple, il vous semble qu'il a été en effet, Tom Wolfe, ostracisé par l'intelligentsia new-yorkaise, par le monde des lettres aux États-Unis?
Il l'a un peu cherché. Lorsque il est encore jeune, hein, il réussit à voler une invitation pour une soirée donnée par Leonard Bernstein, grand chef d'orchestre, pour les Black Panthers. Et donc, il se rend à cette soirée à laquelle il n'est pas invité. Il en tire un reportage absolument saisissant. Et il en tire aussi cette expression géniale, radical chic, qu'on peut traduire en français par gauche caviar. Et donc, bon, ne pas être invité à une soirée, y aller et ensuite en faire un portrait au vitriol, oui, c'était pas forcément pour se faire aimer.
Alors, à l'inverse, au moment de la sortie d'Un homme invré, par exemple, John Updike avait dit « Ce livre reste un divertissement, pas même de la littérature de débutant. » Et plus fort encore, Norman Mailer avait déclaré « Lire ce livre, c'est un peu comme de faire l'amour à une femme de 150 kilos.
» Oui, et ça a beaucoup amusé Tom Wolfe, qui a lui-même ensuite rétorqué que Updike, Mailer et un troisième, dont le nom m'échappe, étaient les 3 Stooges. choses qui étaient vraiment comme des petits chanteurs amusants et sans relief. Ce qu'il faut voir aussi tout de même, c'est que là il y a une bataille d'ego assez forte, surtout de la part de Norman Mailer, puisque bon, Mailer comme Wolfe se sont attaqués aux grands mythes de l'Amérique. Par exemple, Mohamed Ali, le boxeur Cassius Clay, les voitures, les grandes mythologies américaines. Et Tom Wolfe, et Mailer a eu beaucoup de succès, pas forcément moins que Tom Wolfe, mais ils étaient toujours un petit peu en guerre l'un contre l'autre.
C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au premier jour d'une série américaine, puisque nous parlons aujourd'hui de l'écrivain et journaliste Tom Wolfe, à l'occasion de la sortie dans la collection bouquins chez Robert Laffont d'un volume réunissant ses livres Le bûcher des vanités et Un homme, un vrai, ainsi qu'une présentation par Nicolas Hidier, qui est notre invité du jour. Et pour repartir dans cette seconde partie, on écoute justement un extrait d'Un homme, un vrai.
Ces garçons et ces filles noires quittaient tous leur fac pour venir à Atlanta au moment du Freaknik d'avril, durant les vacances de printemps, par milliers. Et ils étaient là, sur Piedmont Avenue, au cœur du quartier nord d'Atlanta, le quartier blanc, inondant les rues, les parcs, les galeries commerciales, s'emparant du centre et de downtown et des rues marchandes de Buckhead, paralysant la circulation même sur les autoroutes 75 et 85, aboyant à la lune, qui devient chocolat pendant le Freaknik, faisant flipper l'Atlanta blanche, qui se barricade chez elle, où elle se terre pendant 3 jours devant cet aperçu redoutable d'un possible futur. Pour ces étudiants noirs qui se déhanchaient devant sa Lexus, ce n'était rien de plus que ce que les étudiants blancs avaient fait pendant des années à Fort Lauderdale, Daytona et Cancun, et partout où ils allaient désormais. À ceci près que les filles et les garçons qu'ils avaient sous les yeux n'avaient pas besoin d'une plage pour s'éclater. Ils fondaient sur les rues d'Atlanta. Atlanta était leur ville. Le phare noir, comme le maire l'appelait. Noir à 70%. Le maire était noir. En fait, Roger et le maire, Wesley Dobbs Jordan, avaient appartenu à la même fraternité d'étudiants. Omega Zeta Zeta, à Morehouse. Noir comme 12 des 19 membres du conseil municipal, comme le chef de la police et le chef des pompiers, comme pratiquement tout le service civil, comme le pouvoir. Et l'Atlanta blanche hurlait à la mort devant ce Freaknik. Il criait que ces noceurs noirs du Freaknik étaient primitifs, bruyants, tapageurs et insolents, qu'ils se bourraient la gueule et salissaient les rues, qu'ils urinaient sur les pelouses blanches, qu'ils embouteillaient les rues et coûtaient aux commerçants blancs des millions de dollars, et qu'ils faisaient même tellement de bruit qu'ils perturbaient les fragiles rites d'accouplement des rhinocéros aux zoos de Grand Parc. Les rites d'accouplement des rhinos. En d'autres termes, ces noirs, filles et garçons, avaient l'audace de faire exactement la même chose que les jeunes blancs pendant leurs vacances de printemps.
Une lecture par Pierre-Marie Baudouin. Que retenez-vous de cet extrait, Nicolas Hidier ?
Déjà, c'est absolument génial. Il y a quelque chose quand même sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que Tom Wolfe aimait utiliser ce point de vue de personnage à l'intérieur de l'habitacle protégé d'une voiture pour observer une scène complètement délirante en train d'avoir lieu. Donc là, on est au tout début de Un homme, un vrai, à Atlanta, mais dans le dernier roman de Wolfe, Bloody Miami, eh bien, il y a à peu près la même scène où on voit le rédacteur en chef du journal de Miami, le Miami Herald, avec son épouse dans leur voiture, une voiture hybride qui incarne tout ce truc très policé du Miami blanc, et qui voit devant eux une fille extraordinaire, une latina comme ils disent, d'origine cubaine à bord d'une Ferrari, leur piquant la place de parking, tout ça en écoutant de la musique plein volume. Et l'Amérique blanche, l'Amérique très conservatrice, avec les coutures étroites, se trouve brusquement mise en face d'un spectacle qu'elle préférerait ignorer, qui est celui en fait de l'égalité, tout simplement, celui de pouvoir, dans le cas de Bloody Miami, se faire piquer une place de parking par une américaine d'origine cubaine. Évidemment ultra jolie et plus riche puisqu'elle est dans une, non pas dans une hybride mais dans une Ferrari, et dans le cas de Un homme un vrai, eh bien assister à une grande fête d'étudiants noirs qui en effet s'appelle Freaknik, une sorte de pique-nique musical délirant qui remet tout simplement la petite Amérique blanche étriquée face à cette possibilité d'égalité.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de profondément progressiste chez Tom Wolfe, mais c'est un progressisme qui n'est pas de l'ordre de la morale. Quand il parle du racisme, il préfère décrire les mécanismes du racisme plutôt que de le dénoncer de manière abstraite, Nicolas Hidier.
C'est ce qui peut décontenancer le lecteur qui serait à la recherche de principes moraux, puisque on a dans l'œuvre de Tom Wolfe toujours et finalement un peu tout et son contraire sur toutes les communautés. Vous trouverez du racisme autant blanc contre les noirs que noir contre les blancs, par exemple, dans Un homme un vrai ou Le bûcher des vanités. Vous trouverez de l'homophobie ou de l'homophilie. Vous trouverez tout en permanence. Au point que tout simplement, on est mis face à une situation d'une immense complexité. La réalité tout de même des choses, c'est que peu importe votre origine sociale, peu importe votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, Tom Wolfe considère que vous êtes guidé par trois principes, que sont le pouvoir, le sexe et l'argent. Et que ces trois principes réunis aboutissent à une sorte d'unité, un peu comme la Sainte Trinité, dont le Dieu le Père serait le statut social. Et la volonté, la quête du statut. Peu importe la manière que vous allez déployer pour l'obtenir, ce statut, mais c'est une question de statut. Mmh. Et que vous soyez noir ou vous soyez blanc, c'est la même chose pour Tom Wolfe.
Est-ce qu'on peut parler, pour reprendre un mot très français, d'un universalisme qui serait, pour Tom Wolfe, une espèce de pierre sur laquelle il ferait reposer sa pensée? Est-ce que c'est un mot qui lui conviendrait?
Moi, je ne trouve pas, parce que Tom Wolfe était quelqu'un également, lorsque j'entends Philippe Labreau parler de Balzac et de Zola, et de l'appeler même Balzola, c'est en effet très juste. Tom Wolfe analysait de manière très précise la structure socio-économique des communautés. Et tant bien même était-il égalitaire dans sa volonté de voir les défauts chez les uns comme chez les autres, il n'ignorait pas qu'il y avait des communautés qui étaient davantage faibles, qui étaient attaquées, qui étaient appauvries volontairement.
Et donc, là, il n'y a pas d'ambiguïté finalement
et là,
sur
y a aucune ambiguïté.
L'endroit où il se place par rapport à ces communautés-là.
Absolument pas. Et clairement, on sent qu'il déplore l'inégalité qui peut exister. Mais cette scène très intéressante du Freaknik au tout début d'un homme un vrai aboutit à une violence sexuelle, en tout cas qu'on peut apparenter à un viol. Après, le roman montrera que c'est plus complexe que cela. Mais d'une jeune étudiante blanche, fille d'un des potentats locaux d'Atlanta, par un jeune athlète noir arrivé un peu au sommet de la notoriété à Atlanta, puisque le sport également, on peut l'ajouter dans l'analyse wolfienne du monde américain, le sport c'est l'accélérateur de particules qui permet, peu importe dont vous venez, qui permet de tout accélérer, de doubler tout le monde.
C'est la méritocratie par le sport.
La méritocratie par le sport, et c'est quelque chose quand même de très très américain qui existe, qui est profondément ancré dans la mythologie américaine de devenir quelqu'un. Et les hommes politiques américains rappellent régulièrement leur performance sportive de même que les acteurs et un certain nombre d'écrivains. Ce qui, là, pour la peine, est quand même assez différent de la littérature en France. Je connais assez peu d'écrivains français qui auraient été des athlètes. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'écrivains américains qui se disent comme athlètes, comme Jack Kerouac, par exemple.
Aurélien Bélanger fait du vélo, il en a parlé. Sur le style de Tom Wolfe, on a parlé du réalisme, mais c'est pas qu'un réalisme. Il y a quelque chose qui va un petit peu au-delà du réalisme chez Tom Wolfe, Nicolas Hidier.
C'est certain, Tom Wolfe, c'est barnomique, c'est du réalisme extravagant. Il part d'un fait réel et il va l'outrer au maximum, il va porter les personnages au maximum des possibilités. Et donc, il fait exploser le réalisme. C'est pas du réalisme magique, puisque à chaque fois, chaque chose qui se produit, eh bien, peut être reliée à un fait. Cela étant dit, quand on regarde Un homme, un vrai, un roman que je considère comme un chef-d'œuvre de la littérature américaine au XXe siècle, il y a un certain nombre d'éléments qui relèvent du surnaturel, réellement du surnaturel. Et c'est là qu'il y a une bascule aussi dans l'œuvre de Tom Wolfe, et c'est là qu'on ne peut pas dire qu'il est juste un journaliste de génie qui serait attaché aux faits et simplement aux faits, il déclenche des éléments surnaturels dans ses romans.
Par exemple,
Dans Un homme, un vrai, il y a un cataclysme absolu, un tremblement de terre qui secoue Atlanta et qui permet à un personnage extrêmement attachant de ce roman, de s'évader de prison où il avait été jeté par erreur judiciaire, de quitter la prison et de devenir un stoïcien, une sorte de philosophe étrange du monde d'aujourd'hui.
Il y a aussi une scène assez incroyable qui est la scène du serpent dans ce même livre, quand le personnage de Crocker doit attraper un serpent qui s'est échappé de son vivarium.
Ah oui, ça c'est absolument extraordinaire. Bon, là on retrouve aussi ce côté un peu biblique qui existe dans beaucoup de romans américains et dans Un homme, un vrai en particulier, où c'est vrai que Crocker, donc cet agent immobilier qui est une force de la nature, qui est bâti comme un taureau, qui a un cou énorme, qui aime dompter les animaux par lui-même, un jour se balade dans sa grande propriété à la campagne, un énorme serpent arrive et il l'attrape lui-même au risque de sa vie. Mais c'est là pour montrer, non pas simplement sa force, la montrer à lui-même, mais c'est aussi pour montrer aux autres qu'il est tout puissant. La puissance virile de Crocker est un exemple de la puissance virile américaine. Tom Wolfe n'a jamais voulu être un viril lui-même, quand on le voit, à la différence
avec
de Norman.
Son costume blanc, en effet.
Son costume blanc, c'était un dandy, comme le dit Philippe Labro. Il était élégant, il était raffiné, il aimait la musique classique, il aimait la peinture du 19e siècle. C'était pas un bagarreur buveur de whisky, c'était pas un Hemingway ou un Norman Mailer Bis. Il était terriblement efféminé d'une certaine manière, et donc c'est pas une volonté, c'est pas par admiration qui fait ces personnages des parangons de virilité. C'est tout simplement pour dire une partie de la mentalité américaine qui est une mentalité de gros macho.
Et ça va aussi jusqu'à la question politique, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser la politique américaine par exemple en ces termes-là. Vous pensez que c'est un bon analyste par exemple de la politique américaine?
C'est un analyste extraordinaire de la politique américaine à partir du moment où il connaissait les États-Unis vraiment extrêmement bien, qu'étant lui-même issu de Virginie, donc un endroit, vous l'avez vous-même rappelé, qui est non seulement la terre de naissance de très grands présidents mais de l'histoire américaine, mais également un endroit où le racisme et le suprématisme blanc s'incarnent avec violence dans le sang, mais étant ensuite allé à New York, ayant travaillé à Atlanta, ayant été journaliste, y compris jusqu'à Cuba, ayant travaillé pendant longtemps à son livre sur Miami, il avait une vision quasi panoptique de la société américaine. Et il a vu les équilibres politiques se faire et se défaire. Mais je crois toujours, même si on a pu le voir décoré par George Bush Jr.
Il a dit qu'il avait voté, d'ailleurs, on lui a beaucoup reproché cela.
Et qu'il avait voté pour George Bush, et qu'il disait aussi qu'à ceux qui prétendaient quitter les États-Unis si Donald Trump était élu, que lui, il leur ferait au revoir, un petit signe de la main depuis JFK. Il avait cette manière un petit peu provocatrice.
Mais
aussi,
Trump, hein, c'est quasiment un personnage du bûcher des vanités. Il aurait pu être l'un des New-Yorkais inspirant un personnage de ce livre-là.
Sherman McCoy, qui donc un financier dans le bûcher des vanités, dans la première version, édition, parce que le livre a d'abord été publié en feuilleton dans Rolling Stone, était un écrivain et non pas avocat spécialiste de la haute finance.
Donc plus proche de Wolf lui-même.
Plus proche de Wolf lui-même. Et Tom Wolf est toujours un peu présent, en fait, hein, dans ses livres. On le retrouve à plusieurs endroits. Le personnage du journaliste dans le Un bûcher des vanités d'origine.
Journaliste alcoolique, alors que Tom Wolf ne devait pas être alcoolique.
Non, Tom Wolf ne buvait pas, hein, ou à peine deux martinis. Voilà, ça lui suffisait. Mais on reconnaît quand même toujours cette manière un petit peu de l'écrivain qui essaie d'analyser la situation pour en tirer un bénéfice personnel. Donc il est toujours un peu présent dans ses livres. Mais en revanche, je ne suis pas sûr qu'il aurait été un bon personnage pour ses livres, pour ses quatre romans, puisque finalement, d'une certaine manière, il échappait vraiment à toutes les catégories. Or, dans ses romans, Wolf s'attaque aux grandes catégories, aux grands stéréotypes de l'Amérique pour les détruire. Wolf, lui-même, en tant qu'écrivain, il échappait quand même à tout ça.
Le roman qu'il faut lire absolument, c'est plutôt Un homme un vrai, alors, selon vous ?
Alors moi, j'adore un homme un vrai, mais cela étant, il y a quatre romans à lire. Donc, à mon avis, il faut quand même tout simplement lire les quatre.
Et on peut déjà en lire deux grâce à vous. Merci beaucoup, Nicolas Hidier. Ces deux romans, Le bûcher des vanités et Un homme un vrai, se trouvent, je le rappelle, dans le livre dont vous avez rédigé la préface dans la collection Bouquins, votre dernier roman à vous. Il date de 2016 et il s'appelle La Nouvelle Jeunesse. Il est disponible chez Gallimard dans la collection Blanche. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Anthony Thomasson. Je rappelle qu'il reste des places jeudi et vendredi prochain pour venir assister à l'enregistrement événement par le département des fictions de France Culture d'une adaptation de Gatsby le Magnifique avec notamment Sofiane Zermani dans le rôle de Gatsby. C'est à 20h30 à la Maison de la Radio. Réservation sur le site maisondelaradio.fr. On se retrouve demain pour parler toujours de Tom Wolfe et du nouveau journaliste. Ce sera entre autres avec Éric Neveu. Tout de suite la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine alors, nous buvons du miel. C'est pas nouveau. Pour notre petit 4 heures, une tranche de poésie. Oh merci, merci, ça fait du bien. Avec cette semaine, le miel des anges. Un éditeur et traducteur, Michel Volkovitch, et 4 ou 5 poètes grecs contemporains, on verra bien. Comment être poète à 16 heures en écoutant, par exemple, Mialis Ganas, qui est un poète originaire de la région de l'Épire. Et le traducteur nous dit toute la difficulté, la finesse avec laquelle il faut le traduire. Ce bleu qui te recouvre, ce bleu qui te recouvre est la cendre du temps brûlé. Un vent souffle, apportant des photos, des cahiers depuis les années d'en bas. Là, tu ris. Là, tu ne dis rien. Là, on vous a pris au flash, tu portes l'auréole noire. Ce bleu qui te recouvre est la lumière que la mort éloigne. Nul ne le voit, mais il est là et s'étale. Autre poème, chez toi, je veux rester. Poème ou prière pour Athènes, ou vers Athènes. Elle me tire par la manche tes affiches, Athènes, immense concours de beauté. Après ma mort, chez toi je veux rester, depuis 20 ans qu'entre tes murs je niche. Dans mon sommeil passent bois et montagnes, celles de son enfance, celles de l'Épire sans doute, et frêle fée emmaillotée de noir. Ma rancune de mule à ton égard, dans je ne sais quel bus, perdu, s'éloigne. Quelle folie, dis-le-moi, me gouverne pour que je cours ainsi, toujours anxieux, traînant des stades muets, des tavernes au fond de moi, les personnes, les lieux étrangers, indistincts sur les images prises par nous, jadis, en d'autres âges. Cette mémoire du déraciné Mialis Ganas, Poésie 1878-1889, c'est chez Le Miel des Anges. Sauvage et apprivoisé, le titre du poème. Voici les oiseaux anciens qui tombent en moi violemment. Je grandis comme un paysage, dans la poussière je ne vois plus rien. Tout est blanc, puis tout est noir, et je ne suis qu'un point dans les éclairs de couleurs. Les yeux fermés, le foie ouvert, et je vois le miracle de la création, sa reconstitution monstrueuse, où les premiers êtres créés quittent le paradis dans la honte, fuyant vers des lacs et des monts sauvages, des régions inconnues. Peut-être en écho à ce rejet d'un monde hâtivement recréé, portrait de groupe, ils ont creusé la montagne, extrait des pierres, l'ont reconstruite avec ces pierres, ont retenu la terre, trouvé de l'eau, marqué les pas de Dieu sur les collines et rapporté de loin l'huile pour leurs veilleuses. Voici les oiseaux anciens qui tombent en moi violemment.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez cette semaine de la poésie grecque contemporaine.